Je vous propose aujourd'hui de revenir 22 ans en arrière par un beau matin de juillet 1959. Ce matin-là, un lieutenant de la marine américaine, le lieutenant Jones, s'embarque à bord du Nautilus, le plus beau fleuron de la marine fédérale à l'époque. Et bientôt, le Nautilus disparaît dans les flots. Le voyage va durer 16 jours. 16 jours durant lesquels le lieutenant Jones ne verra strictement personne. Oui, le lieutenant Jones est au secret car il a une mission spéciale à accomplir. Une mission extrêmement spéciale. De quoi s'agit-il? Eh bien, dans l'étroite cabine qu'occupe le lieutenant Jones, en face de lui, il y a un paquet contenant plusieurs centaines de cartes. Et la mission de Jones est extrêmement simple en apparence. Il suffit de tirer à intervalles réguliers, deux fois par jour, à heure fixe, deux cartes. Et de les glisser dans une enveloppe qui vont être aussitôt cachetées. Alors jusque-là, direz-vous, il n'y a rien de bien extraordinaire. Seulement, voilà, le lieutenant Jones n'est pas censé tirer ses cartes au hasard. Car à 2000 km du sous-marin, sur le continent américain, il y a un autre homme, le lieutenant Smith. Et cet homme, eh bien, il a lui aussi une mission particulière à remplir, puisqu'il est enfermé, tout comme Jones, dans une pièce. En face de lui, il y a une machine qui est actionnée par un mécanisme d'horlogerie et qui, à heure fixe, distribue au hasard une carte. La mission du lieutenant Smith est alors la suivante. Elle consiste à se concentrer sur la carte choisie par la machine et à tenter d'en expédier l'image en direction du lieutenant Jones. L'expérience dure exactement 16 jours. 16 jours durant lesquels 32 cartes ont été choisies par la machine. 32 fois, Smith s'est concentré sur ses cartes. Et l'étonnant, c'est que sur ces 32 cartes, eh bien, 23 ont été identifiées par le lieutenant Jones dans son sous-marin à 2000 km de distance. Ce qui veut dire que 7 fois sur 10, Jones a deviné, disons deviné, la carte sur laquelle se concentrait Smith au même moment, à 2000 km de distance. Alors que s'est-il donc passé? Je vous rappelle que le sous-marin était en immersion, à plusieurs centaines de mètres sous la surface de l'eau, et cela veut dire qu'il est absolument impossible de se confier à des moyens radio de transmission qui sont totalement inefficaces à cette profondeur. Non. Les experts scientifiques et militaires durent se rendre à l'évidence. Quelque chose, oui, quelque chose s'était produit entre les deux sujets au moment où ils tentaient d'entrer en communication. En somme, c'était même la première fois que, officiellement, on avait pu constater qu'une pensée avait pu se déplacer dans l'espace sans aucun trucage, la chose est évidente, mais également sans le secours d'aucun artifice, d'aucun système de transmission technique. C'était donc la première fois que la question brûlante de la télépathie se trouvait posée d'une manière officielle par des experts militaires et scientifiques. Télé veut dire loin, pathos veut dire état, et la télépathie c'est donc cela, la transmission d'état, d'état d'esprit, disons, à distance. Alors c'est un domaine extrêmement flou, contradictoire, qui ne relève absolument pas aujourd'hui d'une appréciation scientifique. C'est pourtant une réalité objective et je vous propose de l'approcher tout à l'heure. À l'occasion du dernier film de David Cronenberg, il s'agit de Scanners. C'est une réalité sur laquelle nous allons donner quelques coups de sonde, puisque scanner veut dire sondeur. Mais avant cela, je vous propose de sonder un autre type de réalité. Igor nous attend pour nous la présenter aux environs de l'an 2000.
Oui, mais pour cela, nous allons commencer par faire un retour d'une dizaine d'années en arrière. Souvenez-vous, dans les années 70, un certain nombre de personnalités venues du monde scientifique et économique décident de fonder une association qui allait devenir célèbre dans le monde entier sous le nom de Club de Rome. Or, ce club avait des idées tout à fait révolutionnaires à défendre quant à l'avenir des sociétés. Son but, eh bien, c'était essentiellement d'attirer l'attention des dirigeants de ce monde sur ce qu'ils appelaient les dangers de la croissance économique. Et c'est ainsi que des mots nouveaux sont apparus au dictionnaire. Pollution, détérioration de l'environnement, rupture des équilibres écologiques, autant de dangers que les membres du Club de Rome mettaient donc clairement en évidence dans leur rapport. Attention, disaient-ils, si nous n'y prenons pas garde, le monde d'après l'an 2000 pourrait bien devenir un monde épouvantable, un monde privé de ressources énergétiques, un monde dans lequel les hommes se presseraient par milliers dans les rues à la recherche de la moindre parcelle de nourriture. Cette denrée est devenue absolument introuvable.
Nous vous demandons de vous disperser. Il n'y a plus de soleil vert, on a épuisé tous les sens. Évacuez immédiatement le secteur. Les dégageuses sont arrivées. Les dégageuses sont arrivées.
image plutôt terrible était tirée du film Soleil Vert, un très grand film qui vient de ressortir en France et que je vous recommande tout particulièrement d'aller voir, un film qui est fondé partiellement sur les conclusions du Club de Rome qui dans les années 70, je vous le rappelle, répétait inlassablement le même message: si nous ne faisons pas attention, le monde dans lequel nous vivrons demain sera un monde épouvantable, un monde qui n'aura pas un visage humain, car l'avenir précisément se prépare aujourd'hui. Alors au fond, le message émis par le Club de Rome et le message que vous venez de voir dans Soleil Vert est simple. Nous devons faire en sorte de préparer l'avenir, car est-ce que l'homme peut vivre dans un monde monstrueux? Mais cette question peut aussi être renversée, elle peut être posée à l'envers. Autrement dit, est-ce qu'un homme monstrueux peut vivre dans la société et dans le monde? Par exemple, imaginez un homme dont le visage soit tellement épouvantable qu'il soit obligé de le dissimuler derrière des bandelettes. Est-ce que cet homme pourrait vivre normalement, se promener dans la rue, prendre le train comme tout le monde, sans attirer inévitablement et pour le pire, l'attention sur lui? Ces images sont d'autant plus épouvantables, ce drame est d'autant plus intense qu'il a réellement existé dans le passé, car l'homme éléphant, l'homme dont le visage était tellement épouvantable qu'il devait le dissimuler derrière des bandelettes, a réellement existé. Et c'est son histoire que raconte le metteur en scène David Lynch dans Elephant Man, un film qui vient de sortir, et qui doit à sa très grande qualité d'avoir remporté le premier prix du Festival d'Avoriaz au mois de janvier dernier. Alors, aussi bien dans Elephant Man que dans Soleil Vert, on retrouve à peu près la même idée. Est-ce que les hommes peuvent vivre dans un monde qui n'est pas fait pour eux? Est-ce qu'ils peuvent vivre dans un monde qui n'est pas un monde à visage humain? Eh bien, c'est cette idée que je vous propose de poursuivre dans un roman qui vient de paraître aux éditions de Noël, un roman que nous devons à un auteur allemand, Wolfgang Jeske, et qui vient de paraître donc dans la collection Présent du Futur sous le titre « Le dernier jour de la création ». L'histoire commence dans un avenir relativement proche, époque à laquelle les scientifiques américains ont fabriqué une extraordinaire machine qui permet enfin de voyager dans le temps. Et dès que cette machine est au point, on décide alors d'envoyer quelques techniciens dans le lointain passé afin qu'ils aillent chercher sur place des ressources énergétiques qui se font rares dans le monde, en particulier le pétrole. Or, dès que ces techniciens débarquent dans le lointain passé, ils constatent à leur grande surprise qu'ils ne sont pas les premiers à fouler un sol vierge, un sol peuplé seulement d'hommes préhistoriques. Car les soviétiques, eux aussi, ont découvert le secret du voyage dans le temps et ils les ont précédés. Ils sont déjà installés dans la préhistoire et leurs missiles sont prêts à défendre leur territoire. Aussi, dans ce lointain passé, l'inévitable va-t-il se produire entre soviétiques et américains? La guerre. Tout cela au milieu des mammouths irradiés et des préhominiens affolés. Mais le pire, c'est que le groupe de techniciens feront cette épouvantable découverte. Ils ne pourront pas revenir à leur époque. Ils sont naufragés dans un monde qui n'est pas le leur, un monde qui les coince définitivement sans le moindre espoir de retour. Alors, Le dernier jour de la création est un livre assez exceptionnel en ce sens qu'il renouvelle de façon tout à fait inattendue le vieux thème du voyage dans le temps. Bon, un thème qui entraîne, parce qu'il entraîne des paradoxes, qui entraîne donc des difficultés d'écriture. Et c'est un livre aussi dans lequel on retrouvera une question quant à la responsabilité du pouvoir et les conséquences qu'il peut entraîner sur les équilibres des sociétés lorsque ce pouvoir est mal utilisé, en tout cas lorsqu'il est utilisé à mauvais escient. Kashka, tu vas nous parler maintenant d'un essai qui vient de paraître, un essai sur la science-fiction.
Oui, et qui nous permet de nous approcher de cette question, de savoir quel est le contenu de la science-fiction. Je voudrais d'ailleurs profiter de ce roman pour dire que, en effet, la science-fiction nous parle de choses qui sont entre guillemets extravagantes et extraordinaires, à savoir par exemple ici un voyage dans le temps. Mais ce qui est important, c'est qu'elle se sert du support du voyage dans le temps pour extrapoler sur un certain nombre de réflexions concernant le modèle, disons, suscité par la civilisation actuelle et des rapports que des civilisations, que des entités sociales sont amenées à nouer entre elles. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment la réalité de 1981, par exemple, fait ici retour à travers un thème classique. Alors, pour comprendre la science-fiction, eh bien Alexis Lecaille nous entraîne dans un itinéraire, les pirates du paradis en sont au fond les initiateurs, qui vient de paraître donc aux éditions de Noël, dans la collection Méditation. Alexis Lecaille nous entraîne donc dans un labyrinthe qui consiste à nous demander pourquoi une littérature qui nous parle de choses dont on sait ouvertement qu'elles sont inexistantes, pourquoi est-ce que cette littérature fascine aujourd'hui un nombre de plus en plus important de gens? Eh bien, je crois que c'est au moins pour deux raisons. D'abord parce que la science-fiction est bâtie sur un sol mythologique, en ce sens que les entités qu'elle matérialise dans le champ de la narration, dans l'écriture, sont des entités qui ont des ressources mythiques extrêmes et qui prennent le relais des anciens mythes tels qu'ils ont été développés, par exemple depuis la naissance de la pensée grecque, de la pensée latine, la pensée occidentale donc, et qui étaient des mythes fondateurs d'une certaine identification d'une société qui devait se référer à ces mythes pour évoluer, en tout cas pour évoluer dans un certain nombre de contraintes morales. Or il semble que la science-fiction ait substitué à ces mythes de conservation des mythes de changement, et c'est ce qui en fait toute l'importance aujourd'hui, parce qu'elle permet à ces sociétés, et donc aux individus qui la composent, de réintégrer la notion de rupture, de changement, de différence.
Tout à l'heure nous avons parlé des dangers sur lesquels les membres du Club de Rome ont attiré l'attention dans les années 70. Et précisément, tu vas nous parler maintenant d'un livre qui lui aussi fait état de ces dangers, et en tout cas reprend en compte un certain nombre des théories émises par le Club de Rome il y a à peu près une dizaine d'années.
Oui, le Club de Rome, il y a à peu près une dizaine d'années, a tiré, on le dit communément, la sonnette d'alarme en disant attention, nous risquons de nous diriger vers une impasse à tout point de vue, les ressources sont limitées, notre environnement l'est tout autant, et nous allons vers une catastrophe à terme si nous ne changeons pas notre comportement. Bien. Il semblerait malgré tout que les modèles qui ont résulté de cette prise de conscience dans les années 70 ont été extrêmes, et que le rapport halte à la croissance, bien qu'ayant suscité des réactions idéologiques tout à fait convenables et salutaires, soit aujourd'hui extrêmement, je dirais, outrecuidant dans ses conclusions, et un certain nombre de chercheurs en ont pris conscience à partir du début des années 75. En particulier, il s'agit de Peter Vashk, dans son livre « La fin du monde n'aura pas lieu », un livre qui a remporté un très vif succès aux États-Unis, qui vient de paraître aux éditions Segers, et qui montre qu'en effet, la fin du monde n'aura pas lieu, au moins pour trois raisons. D'abord parce que nous ne sommes pas dans une enceinte à somme nulle, si je puis dire, nous ne sommes pas dans un environnement totalement fermé. Il est important, bien évidemment, dans un environnement qui l'est provisoirement, qui est celui de la Terre, de prendre en compte un comportement économique, c'est-à-dire d'économiser les ressources. Ça, je crois que nous sommes en train de le faire. Le deuxième point, c'est de prendre parfaitement conscience du fait que des gains de productivité sont possibles dans tous les domaines, c'est-à-dire que si en 1970 on n'avait pas prévu l'informatique et la miniaturisation des systèmes, on ne pouvait pas prévoir les énormes gains de productivité qui aujourd'hui résultent de la percée dans les années 80. En revanche, il y a un troisième point qui est évident, c'est que l'espace circumterrestre est un lieu où vont s'investir les 20, 30, 50 prochaines années de la recherche, de l'industrialisation, de, je dirais, tout simplement de l'expansion humaine. Ça, c'est un domaine très important puisque ça veut dire que notre système, le système terrestre, est ouvert sur l'espace et grâce en particulier à la navette spatiale.
La navette spatiale qui n'a pas pu décoller puisque le cinquième ordinateur qui contrôle les quatre autres ordinateurs qui eux-mêmes ont la gestion technique et technologique de l'ensemble de la navette, donc est tombé en panne. Selon la procédure habituelle, enfin celle qui avait été prévue dans un tel cas, on a décidé d'ajourner le lancement de 48 heures. Le lancement aura lieu donc demain à 13h50 et ce sera peut-être un nouveau pas, un pas très important vers la conquête de l'espace et aussi donc vers la conquête de nouveaux équilibres de production. L'effort de la science, en fait, nous l'avons dit très souvent, consiste, et c'est également l'effort de la science-fiction, à nous faire voir, à nous faire percevoir une réalité que nous ne pouvons pas voir normalement. Mais c'est aussi l'effort des artistes de science-fiction, qui, contrairement aux artistes traditionnels, qui dépeignent ce que l'œil humain peut voir, au contraire dépeignent ce que l'œil ne peut pas voir. Et c'est précisément un de ces artistes que je propose maintenant de découvrir. Depuis de nombreuses années, il travaille sur le problème posé par la perception de l'espace, un monde qui n'existe pas, un espace qui n'existe pas dans la réalité, mais qui existe bel et bien entre l'art et la science moderne.
C'était le temps de Copernic et de Galilée, de Newton et de la mécanique classique. L'espace pictural était alors conçu par les peintres sur le modèle d'une scène de théâtre, d'un cube représentatif au sein duquel le spectacle du monde était ordonné suivant les règles strictes de la perspective euclidienne. Avec pourtant, parfois, de ci, de là, comme la nostalgie d'espaces différents.
Aujourd'hui, après Einstein, après Lobachevsky, Riemann et Rosen, la représentation de l'espace a perdu sa tranquille évidence. L'espace est à la fois fini et illimité, courbe et polydimensionnel. Et de ces modèles abstraits, un nouvel art est en train de naître, art que Michel Guéranger s'efforce d'établir depuis plusieurs années, en substituant à la perception classique du haut et du bas, du proche et du lointain, des visions cinétiques, topologiques et potentielles. Tirant comme une leçon graphique de la relativité et de la mécanique quantique, Guéranger nous montre donc comment un mouvement devient pur objet, comment on peut assister à l'émergence de la matière à partir du rayonnement. Mais le propre de cet art spatial, c'est de dépasser les limites de la toile, de déborder du cadre jusqu'à toucher un autre espace. C'est ce qu'a montré Michel Guéranger en inscrivant de nouvelles lignes de représentation dans un lieu qui dès lors cesse d'être classique et devient un espace de nouvelle configuration topologique, le lieu d'une impossible géométrie qui pourtant existe là sous nos yeux.
Où sommes-nous ? Nous sommes à Aubervilliers, dans un espace industriel à vocation d'entrepôt, c'est-à-dire le stockage de marchandises. L'ensemble doit faire à peu près 2500-3000 m² et très récemment, j'ai eu la charge d'animer, de concevoir et d'agencer tout cet ensemble. Ce qui pour moi est une expérience très importante dans la mesure où j'ai pu concrétiser dans un espace réel toute la problématique spatiale, enfin tout le discours géométrique que je tiens depuis à peu près 5 ans. Aubervilliers n'a pas d'équivalent dans la réalité. Aubervilliers reste un espace topologique au sein duquel a été créée une nouvelle dimension, c'est-à-dire celle d'un horizon imaginaire. Horizon imaginaire, point de fuite imaginaire. Et c'est la création donc d'une ouverture dans l'espace industriel. Alors quelle a été, je voulais, la préoccupation prioritaire à Aubervilliers, ça a été de substituer à la perception habituelle de l'espace une autre perception qui détruit les rapports optiques traditionnels. Je crois qu'il faut prendre conscience que les hommes passent les trois quarts de leur existence dans leur cadre de travail, qui n'est pas autre chose, il faut le dire, que leur cadre de vie. L'habitat industriel est souvent traité en termes de fermeture, comme si l'idée d'une ouverture possible était incompatible avec la productivité. Ça, c'est très important. Alors, quelle est la solution? Eh bien, la solution serait d'encourager les créateurs, enfin, les concepteurs de l'environnement à trouver une relation plus conforme avec le contexte professionnel industriel. Voilà. Et je dois dire que c'est pas toujours une question de budget, mais souvent de créativité.
Un moment viendra, écrit Bachelard, où l'on pourra parler d'une configuration sans figure. Nous verrons la science occupée à éliminer l'espace-temps lui-même pour atteindre la structure abstraite. C'est là, peut-être, tout le travail de Michel Guéranger.
Cette création toute particulière d'un espace qui n'a aucun équivalent dans la réalité, nous la demandons à Michel Guéranger, que nous recevons précisément en direct dans le temps X. Alors Michel Guéranger, mais j'ai envie de vous poser cette question tout de suite. Cela fait de nombreuses années, je l'ai dit tout à l'heure, que vous travaillez sur le problème posé par la perception de l'espace, et je crois que vous êtes un des seuls en France à vous être attaqué à ce problème.
Oui, c'est vrai. Je développe tout ce discours géométrique depuis à peu près les années 1970, et disons que j'ai fondé avec Jean Allemand et Machine de Fer le groupe Space, c'était en 1974, et depuis nous développons les mêmes préoccupations.
Mais vous avez donc commencé par exercer vos préoccupations, votre problématique, sur la peinture. Vous avez donc commencé par peindre. Mais ce qui est très intéressant, et c'est ce que nous avons vu dans ce reportage, c'est que votre travail peut aussi aller en dehors des limites du cadre et de la toile, et vous proposer d'étendre la perception de nouvelles visions, de nouvelles structurations, de nouveaux rapports optiques sur des espaces qui sont beaucoup plus vastes, beaucoup plus considérables, 2000, 3000, voire 4000 mètres carrés. Et pour cela, vous avez donné naissance à une fondation qui est la Fondation Espace. Alors de quoi s'agit-il et quel est le but de cette fondation?
Eh bien, le but de cette fondation, d'abord, j'ai toujours été très attiré par les grands espaces. Et le but de cette fondation a été, si vous voulez, de créer une espèce de recevoir des propositions par les moyennes, les petites et les grandes entreprises pour proposer une restructuration, une réorganisation des grands espaces parce que je trouve que le contexte, l'environnement industriel a été un petit peu délaissé par rapport, si vous voulez, à un essor scientifique extraordinaire, une poussée technologique extraordinaire. Je trouve que l'homme moderne au travail est un petit peu délaissé dans un contexte qui est toujours un peu trop austère.
C'est un peu l'exclu en quelque sorte,
c'est ça.
De la vision là-dedans. Si nous pouvons parler donc concrètement de votre travail, vous êtes par exemple en face d'un entrepôt qui est un entrepôt vide ou une usine, et vous proposez de restructurer l'intérieur de cette usine, de le peindre, de proposer donc à l'intérieur de cette usine des perspectives, des trajectoires.
C'est ça, c'est-à-dire de faire un choix esthétique décidé, je veux dire, soit par le biais de la couleur, par le biais d'un jeu de perspectives, par un jeu de graphique, soit même par l'intervention de la lumière et même par l'intervention du son, on peut essayer de reconsidérer totalement un espace industriel.
Et donc de créer un espace qui n'a aucun équivalent dans la réalité. Alors, je précise donc qu'on peut contacter la Fondation, 13 Boulevard des Frères Voisins, j'espère que vous allez voir apparaître l'adresse. Donc la Fondation Espace, 13 Boulevard des Frères Voisins, 75 015 Paris. Et on peut également donc téléphoner à la Fondation au 554 18 11. Alors j'espère que ceux qui nous écoutent sont nombreux à vous appeler, parce que ce que vous proposez est sans équivalent, je crois, et tout à fait exceptionnel quant à l'évolution de l'art et peut-être aussi à une nouvelle harmonie entre l'art et le travail. Pourquoi pas? Alors justement, ce problème posé par la perception de l'espace, eh bien, nous allons maintenant nous le poser, mais dans un domaine un peu différent. Il s'agit toujours de la perception, d'une perception autre, d'une perception différente, d'une extra-perception.
Oui, cette extra-perception a pour nom la télépathie. Vous en avez tous entendu parler de la télépathie. Seulement, c'est une chose qui a pénétré le champ de la langue, mais qui n'a pas, et loin de là, pénétré le champ de la réalité scientifique. En effet, depuis 1920, date à laquelle un célèbre chercheur américain, le docteur Rhine, a entrepris d'étudier scientifiquement ce phénomène de la télépathie, eh bien il faut bien avouer qu'on n'a pas appris grand-chose à son sujet. Tout au plus, on sait que dans certaines conditions, certains êtres, et ils sont rares, ont la propriété d'entrer en résonance mentale avec d'autres sujets. Et ce sont des phénomènes qui, hélas, ne sont pas reproductibles, ce qui veut dire que, malheureusement, il n'existe aucun protocole scientifique et expérimental qui permettrait de dénoncer d'une manière objective et absolument évidente le phénomène de la télépathie. Seulement, il reste quand même que des milliers d'expériences ont été effectuées et que l'on sait, en gros, maintenant, ce qui se passe entre deux sujets au moment où ils tentent d'entrer en communication. Et on a même pu établir que c'est surtout le récepteur qui paraît actif dans le domaine. En effet, au moment où on se concentre sur lui, il semble que sa capacité respiratoire, son taux de respiration, en même temps que ses capacités artérielles, aient tendance à s'effondrer, son tonus musculaire fléchit. En revanche, il semble que sa tension artérielle augmente et que son tracé encéphalographique se modifie dans de grandes proportions. En somme, tout se passe comme si la pensée était une sorte de champ physique, un champ dans lequel on peut être plus ou moins plongé et qui, eh bien, modifie dans des proportions plus ou moins vastes la perception de ceux qui y sont soumis. Alors on peut, à partir de maintenant, faire une hypothèse. Nous allons imaginez que certains individus aient été modifiés sur le plan génétique et qu'ils aient donc la propriété d'intensifier ce champ physique de la pensée et même de le contrôler. Alors à partir de là, quelles seraient les relations qu'ils seraient amenés à établir avec les êtres humains ordinaires? C'est une question tout à fait redoutable, car ces sondeurs sont eux-mêmes redoutables, et elle est développée par David Cronenberg dans son dernier film Scanners. Je vous propose tout de suite d'aller à la rencontre de ces sondeurs, ces scanners extraordinaires. Seulement, attention, comme il s'agit de personnages qui vont vous mettre en communication avec vous-même et que vous êtes en ce moment même plusieurs millions à regarder ces images, n'oubliez jamais que vous êtes en état de, entre guillemets, communication et qu'à partir de maintenant, tout, ah oui, absolument tout, peut se produire.
Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, n'essayez donc pas de regarder l'image. Nous avons triplé la puissance en ondes alpha émanant de votre récepteur. Il ne vous reste que 10 secondes pour changer de canal ou éteindre votre poste. Passé ce délai, le contact sera irréversible. Pénétrerez irrémédiablement dans le réseau télépathique maximal des scanners.
En octobre 1979, à Cordoue, un collège de scientifiques, de psychologues et de philosophes de réputation internationale a rejeté la division traditionnelle entre l'esprit et la matière, privilégiant la conscience comme énergie fondamentale de l'univers, dont les phénomènes physiques ne seraient que l'un des modes de représentation. Dans ce cadre, ils reconnaissent implicitement les expériences de perception extrasensorielle, télépathie, clairvoyance, télékinésie, comme des manifestations naturelles courantes et propres à chaque être pensant.
C'est peut-être un point de vue difficile à admettre, que de dire que chacun est télépathe. Je dirais que chacun est régi, consciemment ou non, et 24 heures sur 24, par des processus, par des flux de nature télépathique. La question est, jusqu'à quel point en sommes-nous conscients? Jusqu'où pouvons-nous en devenir conscients? Et quelle modulation consciente et volontaire pouvons-nous obtenir sur ces processus? Bien des clairvoyants et même certains sujets doués de psychokinèse ont pensé dès leur plus tendre enfance que cette faculté, ils la partageaient avec les êtres de leur entourage, jusqu'au moment où certaines réprimandes sont venues pour signifier que de ces choses-là, on ne parle pas. À partir de ce moment-là, il est certain que tout le devenir de l'individu subit une espèce de torsion, à la fois intérieure et extérieure, puisque le pouvoir est toujours là, et même s'il est réprimé, mis en latence partiellement ou pour un temps, il finit par ressurgir. Et d'autre part, le sujet a été mis en garde contre le danger qu'il représente éventuellement pour d'autres.
I've never seen anything so disgusting in all my life.
I'll tell you something. He's staring at me. I think he's looking at us. I think we're being picked up.
Oh, it's too awful.
Can you believe it?
I don't know how they can make creatures like that. Really?
Télépathie, évidemment, on peut influencer une personne. En somme, la télépathie, c'est on peut agir sur le moral d'une personne, on peut lui transmettre une image, une audition, enfin, tout, on peut agir sur tous les sens, une émotion, mais aussi on peut perturber assez profondément le caractère d'une personne. C'est ce qui se produit dans les cas d'emprisonnement psychique, ce qu'on appelle vulgairement un envoûtement.
De tout temps, l'homme a exercé de manière plus ou moins spontanée ses facultés psy. Celles-ci furent longtemps associées à des phénomènes occultes et mystiques. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle, avec les travaux d'Ucher, Eigmann et Richer, que des expériences furent menées scientifiquement en laboratoire afin de contrôler le potentiel effectif des pouvoirs de la pensée.
Scanners, par exemple, on voit que les sujets ont non seulement la possibilité d'entendre les pensées des autres, mais également de les voir. On voit qu'ils ont non seulement la possibilité de se projeter dans le cerveau d'un homme, mais également de l'influencer. Il s'agit de processus qui gouvernent une réalité physique, je dirais, extrêmement transitoire. Et même, ce n'est pas uniquement un jeu de mots, de dire qu'il s'agit d'une réalité en transe. Et c'est pourquoi j'ai proposé de remplacer le terme de parapsychologie par le terme de transphysique.
Welcome to our little psychic gymnasium, Cameron Vale. And please meet Yoga Master Dieter Tautz. Mr. Tautz has kindly consented to be your psychic sparring partner. He has publicly demonstrated on many occasions By the power of his will, he can control his heart rate, his alpha wave rhythm, and many other supposedly uncontrollable functions of the human body. Are we ready?
Just about.
Proceed.
Le scanning, tel que nous le voyons dans Scanner, est une sorte de projection psychophysique d'énergie qui est mise à partir d'un centre que je dirais frontal, est censé, je dirais, s'emparer progressivement des centres du système nerveux central de l'adversaire ou de la personne qui est en face en tout cas, et peu à peu briser sa volonté, annihiler sa perception individuelle et lui en imposer une autre.
I want you. I want you to slowly release your scan, slowly, with focus. I want it to touch his heart, but not his brain.
Understand?
Telepathy is not mind reading. It is the direct linking of two nervous systems separated by space. I want you to make a link from your brain to his heart. I want your brain to make his heart beat fast. Now, if his heart beats too quickly, then he will take over control of his heart and slow it down. Don't worry about him. All you have to do is make his heart beat faster.
Quelqu'un qui a maîtrisé, disons, au cours d'une douzaine d'années d'exercice approfondi les techniques du Hatha Yoga et du Raja Yoga n'est certainement pas à la merci d'un sujet psy, si doué soit-il.
Les expériences métapsychiques contrôlées scientifiquement ont suivi de multiples voies. Suggestions à distance, transmission télépathique des émotions, repérage visuel à quatre dimensions, communication avec sujets sous-marins. Depuis une vingtaine d'années, les départements militaires des grandes puissances consacrent à ces phénomènes une part importante de leur budget.
Les expériences qui ont été les plus formidables, à bien dire, ça a été les expériences qui ont consisté à voir au sein de la matière, c'est-à-dire à rentrer à l'intérieur d'un tube, c'est-à-dire de plusieurs tubes les uns dans les autres, à dépeindre le contenu du tube avec les étiquettes successives qui étaient sur les emballages et à donner la formule atomique du composé. Alors évidemment, les expériences ont été nombreuses, on en a fait plus de 300, hein, avec des scientifiques qui ont contrôlé sérieusement. Parce que je vous prie de croire qu'une expérience pareille n'a pas été crue tout de suite, il a fallu recommencer sans cesse. Et ça s'est avéré efficace.
Is this the only way we can do it?
If we don't plug into the computer now, they're going to reprogram it. Hey, Lee. Punch up your internal monitor. Access is IM863.
Why, what is it?
Someone's inside this thing right now getting the right program.
Si on prend le dérèglement des ordinateurs, ça sont des choses qui ont déjà été faites en parapsychologie, c'est pas une nouveauté. Hein? Peut-être pas de façon si spectaculaire que dans le film Le Scanner, mais c'est une chose qui a été faite. Moi-même, j'ai réussi, par exemple, à distance, à déplacer un relais électronique en faisant l'expérience outre-Atlantique. Et ça, tous les parapsychologues connaissent ce genre de phénomène. Alors, l'expérience, enfin, ce qui est relaté dans le film Scanner, c'est une chose qu'on peut prendre comme une possibilité.
La question est là. Est-ce que nous devons rejeter, refouler ces pouvoirs parce qu'ils pourraient mener aux pires abus et servir les pires totalitarismes, ou est-ce que nous devons de toute façon étudier la question et moduler ces pouvoirs en fonction d'une évolution consciente?
Nous sommes quelques millions. Nous représentons une force psy considérable. Concentrons-nous sur notre récepteur. Dirigeons notre puissance mentale sur le faisceau du tube cathodique. Voilà. Nous sommes en phase.
Cette fascinante intersection entre l'esprit et la matière est loin d'avoir révélé tout son contenu. Scanner, ce film éblouissant de David Cronenberg, nous en fera prendre un petit peu conscience. Il est de toute façon un premier pas marqué vers une certaine attention à l'égard de ces phénomènes. Il nous montre que l'esprit humain est une véritable mosaïque, une sorte de labyrinthe dans lequel nous pouvons nous promener avec d'infinies découvertes. C'est peut-être aussi une sorte de puzzle, n'est-ce pas, Chantal?
Oui, avant de parler du courrier, j'aimerais m'adresser aux plus jeunes d'entre vous et présenter les derniers nés des puzzles de science-fiction de la maison Nathan. Deux des reproductions des plus célèbres illustrations de Chris Foss, représentant celui-là un vaisseau spatial et celui que vous allez découvrir tout de suite, les villes de l'espace, ont été découpées en 500 morceaux, ainsi que deux illustrations tirées du film de la Walt Disney, Le Trou Noir. Vous pouvez voir en ce moment Vincent et Maximilien. Ces puzzles sont disponibles dans tous les magasins de jouets. Et puis, pour en revenir au courrier, nous avons noté récemment un vif intérêt dans vos nombreuses lettres pour les bijoux électroniques que nous avons présentés il y a 15 jours. Alors nous avons décidé de vous donner l'adresse des fabricants à qui vous pouvez écrire pour vous procurer et pour vous documenter sur ces bijoux électroniques, tableaux ou bien encore cartes de visite. La voici, il s'agit de Catherine Ashmore, 51 rue du Général Leclerc. Ça va apparaître sur votre écran, je l'espère, 95 000 Boisemont. Et puis, pour terminer, je voudrais vous rappeler l'adresse du service courrier de Temps X qui s'efforcera de répondre à vos nombreuses suggestions ou questions. Temps X, TF1, 17 rue de l'Arrivée, pièce 4084, 75015, Paris.
Eh bien, la semaine prochaine, pendant que de nombreux téléspectateurs nous auront écrit, nous retrouverons un personnage, un très grand personnage dans le domaine de la science-fiction. Nous irons à sa rencontre. Et avant de refermer cette édition du Temps X et de laisser donc ces réseaux de communication, eh bien, nous voudrions encore nous adresser à cet homme de demain qui est en train de naître dès aujourd'hui. Nous ne savons pas du tout ce qu'il sera dans 100 000 ou dans 1 million d'années. Mais ce qui est certain, c'est qu'il sera aussi différent de nous que nous le sommes de Ramapitek, ce fragile ancêtre de l'homme qui, il y a plusieurs millions d'années, courait dans la savane à la recherche de sa future humanité.